Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguez de Olmeta, diffusée en direct mercredi 15 novembre 2017 de 10h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Amis auditeurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, comme à chaque fois. Je vous retrouve avec une voix qui n'est pas une voix de radio, mais c'est une voix de saison. Nous sommes toujours un peu pris par le temps, donc on va aller assez vite. Je vais tout de suite vous donner une information importante. C'est le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. Vous entendrez le bobino tout à l'heure. Mais il est bon de vous rappeler que le dimanche 3 décembre à midi, dans le salon de la péniche Les Calanques, face aux 52 quais du Point du jour à Boulogne-Billancourt, Haute-Seine, nous nous retrouverons pour le déjeuner et puis pour la remise du prix Jean Ferré. Alors, pour réserver, vous envoyez dès maintenant au secrétariat de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, un chèque de 49 euros par personne pour recevoir votre billet d'entrée. Pour participer au premier tour du prix Jean Ferré, les auditeurs doivent envoyer au secrétariat de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, un bulletin de vote établi sur papier libre où ils écrivent le nom de la personnalité qui a, selon eux, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Le bulletin doit être inséré dans une enveloppe cachetée, libellée, prix Jean Ferré 2017 et portant leur nom et adresse. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous à ce dimanche 3 décembre. Nous avons eu il y a quelques jours un apéritif sympathique voulu par Madame Paoli, la présidente de Radio Courtoisie, afin que tous les directeurs d'émissions puissent se rencontrer. C'était un moment extrêmement convivial. Et c'est vrai qu'un verre à la main, on peut se promener de l'un à l'autre, c'est plus facile qu'un dîner. Et il en est ressorti que presque tout le monde était là, enfin presque tous les directeurs. Eh bien, tout le monde est très content d'être sur un bateau qui vogue tranquillement et très bien, après avoir connu quelques instants de tempête. J'en profite pour dire aux auditeurs qui souhaitent envoyer des messages pour poser des questions un peu délicates sur la vie de la radio que je n'y répondrai pas parce qu'il y a une part de perversité à poser des questions auxquelles les gens connaissent les réponses. Et puis je voudrais dire aux quelques-uns très rares qui m'arrêtent dans la rue pour m'enguirlander parce qu'il s'est passé ceci ou cela alors que je n'y suis pour rien, que c'est plus la peine. Le monsieur qui hier soir m'a poursuivi jusqu'à chez moi pour me parler des petits problèmes de la radio aurait pu se dispenser, mais enfin il a pris la porte cochère dans le nez. Voilà. C'est pas la peine de me demander de vous parler de la vie de Radio Courtoisie. Elle est claire. Tout va bien. Bon, puisque je suis dans les annonces, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voulez me retrouver après-demain, vendredi 17 novembre à partir de 20h au Bar des Halles, 71 rue Saint-Honoré, 75 001 Paris, eh bien je signerai mes bouquins dans le cadre de Livre Arbitre, qui est une association d'amis et de copains. Alors je ne vais pas vous dire tous les gens qui y seront, en dehors de votre serviteur, vous pourrez retrouver notre ami Patrick Goffman. Et enfin, je finis avec ma petite publicité, le samedi 18 novembre, c'est donc le lendemain, le troisième salon du livre et de la famille aura lieu à la mairie du 8e arrondissement, qui est 3 rue de Lisbonne, et là aussi, en compagnie de gens aussi prestigieux que Jean Raspail et d'autres, eh bien je signerai mes bouquins. Donc voilà, venez nombreux. Bien, avant d'aller plus loin, je voulais faire une petite mise au point par rapport à la dernière émission. Je suis très heureux d'avoir des auditeurs extrêmement attentifs ont, comme moi, remarqué, quand je me suis écouté à la rediffusion, que j'avais dit une ânerie majeure, et ils me l'ont signalé. J'avais parlé de Marcel Boussac, une grande figure des courses, en lui attribuant le haras de Méautry. En réalité, c'est le haras de Jardy, qui est dans la banlieue de Versailles. Et puis, le haras de Méautry, c'était le haras du baron Guy de Rothschild. Voilà, j'en ai fini, et maintenant, je reçois notre ami Monsieur Godichon, qui va nous parler de son association, qui est l'Association Libérale et Sociale. De quoi s'agit-il, cher monsieur ?
Qu'est-ce que l'Association Libérale et Sociale ? C'est une association à but politique située résolument à droite. Elle a vocation à se transformer en parti politique. Son idéologie est, dans des proportions définies par son programme, libérale, nationale et sociale. Libérale, la conception de l'économie défendue par le mouvement est celle d'une économie de concurrence qui seule permet d'atteindre un optimum économique. Nationale, le mouvement se veut national dans la mesure où il a dans ses priorités la défense de l'identité française, notamment par un arrêt de l'immigration et l'expulsion des éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la France. Il veille à la cohésion de la nation et exige des nouveaux venus le respect des valeurs de la France sous peine d'être reconduits dans leur pays d'origine. L'Association Libérale et Sociale veut aussi un État fort qui assure la sécurité de ses concitoyens grâce à des forces de l'ordre commandées et suffisamment nombreuses et équipées. Elle veut aussi une armée forte et bien équipée. Elle veut une justice qui applique la loi sans état d'âme et punit les voyous et non pas les honnêtes gens. Et elle veut avant tout soutenir l'agressé et punir sévèrement l'agresseur. Social. L'ALS n'oublie pas le social, notamment en conservant une certaine redistribution et en se battant pour l'égalité des chances. Social ne veut pas dire socialiste. L'Association Libérale et Sociale se bat pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'intérêt général et la justice. Pour l'ALS, la charité demeure d'ordre privé. La charité publique, pratiquée par des non-chrétiens, voire par des prédateurs, qui agissent avec l'argent des autres, n'aboutit qu'à la spoliation et au détournement de fonds. L'actualité fourmille de faits divers qui confirment cet état de fait. L'ALS essaie de discerner également au maximum qui doit être aidé et qui est capable de subvenir à ses besoins sans aide publique. Les 7 propositions prioritaires de l'ALS. Supprimer le regroupement familial, instaurer le droit du sang, favoriser la natalité franco-française, des juges moins nombreux mais plus performants, un nouveau modèle économique et social pour favoriser l'initiative, l'investissement et le travail, optimiser la sélection et l'orientation à tous les niveaux d'enseignement et de la formation professionnelle et mettre en place une Europe strictement soumise au principe de subsidiarité.
Bien, je pense que, j'en ai lu qu'un, mais je pense que tout ça est expliqué très largement dans vos livres « Économie ou socialisme, il faut choisir ». Et l'autre qui est pour un État juste et efficace, est-ce que vous pouvez, cher monsieur Pierre Godichot, me dire l'éditeur, le prix, où est-ce qu'on peut trouver les livres et en même temps donner les coordonnées de votre association ? Alors, les deux bouquins qui soutiennent tout ce que vous venez de nous dire.
Le premier livre, c'est « Économie ou socialisme, il faut choisir ».
Oui, alors l'éditeur.
L'éditeur, Godefroy de Bouillon, édition Godefroy de Bouillon. Donc, il peut être commandé directement chez l'éditeur et il est au prix de 15 euros.
Très bien.
Et le deuxième, « Pour un État juste et efficace », qui est sorti cette année, qui contient un programme axé autour de la notion de bien commun, toujours chez le même éditeur, Godefroy de Bouillon, au prix de 18 euros.
Donc, très bien, ben on laissera toutes ces coordonnées au secrétariat pour que les auditeurs qui n'ont peut-être pas eu le temps de noter, s'ils veulent acheter les livres, pourront téléphoner pour savoir comment s'y prendre. Bien, alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous m'avez expliqué 2-3 choses, voilà. Est-ce qu'il est réellement possible et utile de noter les hommes politiques ? Moi, personnellement, je ne le crois pas, mais puisque vous posez la question, vous allez nous y répondre.
Bien, je serais d'un avis un peu différent.
Oui, mais tant mieux.
Moi, je pense que c'est possible de les noter, puisque quelqu'un est arrivé à le faire, qui s'appelait Walter Levineau, qui était un auteur de jeux et tests. Alors, c'est sûr, au départ, c'est un test qui est paru en 1986, il y a déjà 30 ans, dans le Nouvel Observateur. Bon, un journal de gauche, c'est vrai. Mais enfin, bien que le test soit un peu ludique et farfelu, je me suis aperçu qu'il avait beaucoup plus de profondeur qu'on ne pouvait le penser. Et qu'il permet non seulement de mettre une note sur les politiques, mais aussi de déterminer des profils. Et c'est très important parce que des gens qui ont la même note, par exemple, dans le test, peuvent avoir des profils très différents. Par exemple, De Gaulle et Le Pen ont la même note globale, mais ils n'ont pas le même profil.
Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Hein.
Voilà, mais c'est comme ça. Donc le profil est aussi important, presque aussi important que la note. Ensuite, il me paraît utile de les noter parce que ça permet de rendre ces politiques prévisibles. Une fois qu'on les a notées, on voit à peu près de quoi ils sont capables. Et tout ça, ça permet d'expliquer les échecs de nos politiques depuis 40 ans.
Oui, mais voyez-vous, par exemple, moi, si j'avais eu à noter M. Manuel Valls, quand il était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, je ne l'aurais vraiment pas mis une très bonne note, hein, soyons clairs. Et puis, ce matin, aux aurores, je l'ai entendu sur une radio périphérique où il répondait à une interview à propos de toute la polémique qui tourne autour de Charlie Hebdo. Et là, eh bien, je lui aurais mis une très bonne note. Alors, comme quoi, la note, elle ne peut pas être forcément définitive.
Mais j'ai une réponse à votre,
j'espère.
À votre observation, M. Charigues. En fait, dans le test, qu'il faut bien voir, à partir de... Donc, les notes vont de moins 40 à gauche. J'ai mis moins parce que c'est négatif pour moi, être à gauche, à plus 40, 45 à droite. Or, à partir d'une certaine note, on est dans l'action. En dessous d'une certaine note, on est dans la parole. Et au-dessus d'une certaine note, on est dans l'action.
Alors, qui est dans l'action aujourd'hui? Par exemple.
Dans l'action, actuellement, dans les partis dits de droite et de centre-droit, vous avez Jean-Marie Le Pen, était dans l'action.
Était dans l'action.
Marine Le Pen l'est, Louis Alliot, enfin les ténors du Front National. Mais aussi, je mets Christian Estrosi, vous avez Thierry Mariani, Nadine Morano, vous voyez, des gens comme ça, la droite de l'UMP. Encore que Estrosi a un peu bougé, mais par exemple, Morano et Mariani, par exemple, ont soutenu Donald Trump, par exemple. Donc, pour moi, c'est un marqueur. C'est un marqueur de droite d'avoir soutenu. Les gens qui ont soutenu Donald Trump, je pense que c'est des gens qui privilégient l'action. Voilà, qui sont... C'est la droite d'action. Par rapport à Marine Le Pen aussi, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, ce qui est dit en France dans une certaine presse à propos de M. Trump, est plus ou moins exact. Mais enfin, c'est pas du tout partagé par la grande majorité des Américains de l'Amérique profonde. M. Donald Trump n'est pas aussi détesté aux États-Unis qu'on veut bien nous le dire.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est clair. Bon, alors très bien. C'est vrai que la note, ça peut servir. Mais ça peut évoluer aussi, je vous dis, en ce qui concerne cela.
La mienne a évolué dans le temps, par exemple.
D'accord, oui, je comprends.
Ça dépend de... par exemple, pour avoir une belle note, une bonne note au test Vino, par exemple, il faut se lever de bonne heure le matin. Si vous ne voulez pas de bonne heure le matin, vous travaillez moins parce que ça dépend du travail. Mais je vais en parler plus tard. Hein. Je vais en parler à l'occasion d'une prochaine question.
Ben, alors, dans la foulée, puisque pour mettre en œuvre les choses, il faut des gens efficaces. Bon, vous m'avez dit que vous souhaitiez parler de cette question. Existe-t-il une martingale pour sauver la France? Alors ça, c'est une question extraordinaire parce que ça peut demander un développement considérable. Mais une martingale, il y a toujours une part de chance quand même, hein, une part de hasard, même si c'est bien calculé. En matière de jeu, dans la martingale, il faut toujours intégrer une part de hasard. Alors qu'en est-il?
Marqué dans la vie de tous les jours, il y a toujours une part de hasard. Voilà. Hein, quand un enfant naît, on ne sait pas s'il sera intelligent ou pas, etc. Hein, s'il sera plus ou moins intelligent. Donc, effectivement, avant de répondre à cette question, je voulais juste faire un petit récapitulatif historique. C'est-à-dire que dans le passé, par exemple, au niveau de la fonction de président de la République, je n'en avais trouvé aucun depuis 1945 qui était vraiment au niveau pour occuper la fonction, y compris le général de Gaulle. Le mieux placé pour moi, c'était Georges Pompidou, mais là encore, il y avait un problème.
Oui, mais Georges Pompidou, ça a duré 4 ans, il n'a pas eu le temps de faire des sottises.
Voilà. Et ensuite, il y a des gens qui étaient assez bons, comme Perfitte, Michel Poniatowski, Balladur, Raffarin, Hortefeux, Estrosi, qui ont été au pouvoir, je parle, parce que je ne parle pas de Jean-Marie Le Pen qui n'a pas été au pouvoir, hein. Qui aurait peut-être pu faire quelque chose aussi. Voilà, donc ces gens-là, malheureusement, ne remplissent pas tout à fait les critères dont je vais parler maintenant.
Ah voilà, quels sont les critères?
Voilà, alors, pour sauver la France, je pense qu'il y a une catégorie dans le Tessévino qui se détache, c'est la catégorie la plus à droite. Alors, Lévinot avait parlé des hersantistes, enfin de Hersant. Hersant était, comme j'avais dit chez Gérard Marin, le PDG du Figaro à l'époque, quand était paru le test. Donc c'est la catégorie la plus à droite du spectre politique, c'est-à-dire à droite de Jean-Marie Le Pen, en fait. Pourquoi ? Parce que la droite lepéniste a le cœur à droite. Donc là, je vais employer un vocabulaire dont j'ai déjà parlé dans de précédentes émissions, mais que je vais approfondir. Par exemple, Jean-Marie Le Pen avait le cœur à droite, la tête à droite et le portefeuille au centre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir le cœur à droite, pour moi, c'est avoir de l'imagination et de la créativité. Oui. Voilà, parce que le cœur à gauche, pour moi, c'est être archaïque. Ce n'est pas du tout être généreux, c'est archaïque. Donc, l'inverse, le cœur à droite, c'est l'imagination et la créativité. La tête à droite, c'est la capacité à diriger et à organiser. Et le portefeuille au centre, donc, c'est vouloir gagner un salaire moyen, français moyen, quoi. Alors, pour vraiment diriger la France au plus haut niveau, pour moi, il faut avoir non seulement le cœur et la tête à droite, mais aussi le portefeuille. Et le portefeuille à droite, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire savoir des capacités en économie, en gestion, en finance ou dans le commerce. Et à ce moment-là, le potentiel d'une personne, c'est l'addition des trois. Dans le Tessevino, qui figure en annexe de mon premier livre « Économie ou socialisme, il faut choisir », donc test que chacun peut faire. Donc, vous avez une note de cœur, de tête et de portefeuille, et la somme donne votre potentiel. Alors, c'est quoi un potentiel, en fait ? C'est-à-dire, il est d'autant plus élevé qu'il est à droite, mais c'est quoi ? C'est-à-dire que plus vous êtes à droite, en fait, il y a une question de QI, mais une question de travail aussi. Parce qu'il y a des gens très intelligents qui travaillent peu. Donc, ils peuvent se retrouver à gauche, comme Attali, par exemple, ou Fabius, ou des gens comme ça. Ils se sont des cossards, comme on dit, un peu feignants, donc ils se retrouvent à gauche. Par contre, être à droite, c'est travailler. Par exemple, pour avoir, mettons, 16 dans le test Evino, il faut travailler 30 heures par semaine. À 32, il faut travailler 60 heures par semaine. Et à 40, il faut travailler 75 heures par semaine. Donc, ça fait déjà des horaires de travail extraordinaires. C'est vrai, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut appliquer son intelligence à de l'action concrète, à des choses opérationnelles. Et je parle d'heures, en plus, ce ne sont pas des heures de travail d'une femme de ménage, par exemple. Je respecte les femmes de ménage, mais enfin, un polytechnicien ne va pas gagner la même chose qu'une femme de ménage. Donc, en fait, le travail que va faire un cadre supérieur ou dirigeant, en fait, c'est un travail que j'appelle le travail originel. C'est-à-dire, c'est un travail qui résulte des études supérieures qu'il a faites. Et à ce moment-là, il va utiliser ses notions de physique, de chimie ou de gestion, etc., pour gérer des ensembles complexes. Et donc, il sera mieux payé qu'une femme de ménage, un ouvrier spécialisé qui ferait le même nombre d'heures, qui ferait 50 heures comme lui. Donc, il sera mieux payé. Et pour moi, ce qui justifie la différence de rémunération entre les cadres et les gens de la base, c'est justement les trois items dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'imagination et la créativité, la capacité à diriger et à organiser, et les capacités en économie, en gestion, en finance ou en commerce. Voilà, ce qui permet de distinguer les autres. Et ça, ce profil, on en trouve des centaines de milliers dans le secteur privé, mais on n'en trouve aucun dans la sphère politique. Donc c'est tout de même embêtant. C'est-à-dire des gens qui sont ce que j'appelle des leaders. Alors j'ai mis ça à 22 dans le test. Il n'y en a pas dans le monde politique. Le seul qu'il y a eu en 50 ans, que j'ai repéré, c'était Alain Perfit. C'est le seul qui était à cette note-là. Tous les autres étaient en dessous. Donc, ils n'étaient pas au niveau même de cadre supérieur du privé. Donc, ça pose un vrai problème donc, pour l'administration de la France. Donc, comme j'ai dit, il y a des centaines de milliers de gens de cette envergure qui sont dans le privé. Il suffirait qu'il y en ait quelques dizaines peut-être dans la sphère politique et ça suffirait, à mon avis, pour mener une politique qui peut sauver la France. Et en plus, je leur demande d'être altruistes.
Bon, ouais, mais voilà. En plus. Ouais. Ben, je me pose une question comme ça, mais c'est la question du béotien ou du candide. Mais est-ce qu'un polytechnicien serait capable de faire correctement le ménage, par exemple ?
Non, ce que chacun, justement, j'en parle dans mon premier livre, c'est un chapitre dans mon premier livre, « Économie ou socialisme, il faut choisir ». Chacun a ce que j'appelle son spectre de compétences. Donc, un grand cuisinier peut avoir, par exemple, un très bon QI. Et d'ailleurs, il existe des écoles supérieures de cuisine où on apprend la cuisine à haut niveau. Je sais que, M. Marquis, vous êtes spécialiste de la question.
Moi, je mange.
Oui, vous dégustez. déguster. Donc, et c'est un cuisinier, donc peut-être aussi intelligent qu'un diplômé de l'enseignement supérieur autre, hein, dans lettres ou en sciences. Lui, il n'ira pas s'aventurer sur le domaine du médecin ou de l'ingénieur. Oui, et vice-versa, l'ingénieur et le médecin n'iront pas s'aventurer sur son domaine.
J'entends bien, mais je vous ai posé cette question parce que j'ai un souvenir en tête. Ouais, c'était il y a 4 ans, un jour de 14 juillet, et je me trouvais dans la gare Saint-Lazare, un peu déserte, un 14 juillet, et il y avait un polytechnicien qui venait de la revue, qui était en tenue, hein, avec la tangente au côté et tout, le bicorne, et qui était devant une machine à distribuer les billets, et qui était totalement paumé, qui n'arrivait pas à la faire fonctionner, et c'est moi, couillon comme il n'est pas permis, qui ai réussi à lui sortir son ticket. Et ça m'a beaucoup amusé parce que le gars était polytechnicien et moi j'ai même pas mon certificat d'études. Voilà, c'est une image comme ça que je trouve drôle de voir un polytechnicien devant une machine de la SNCF qui est censée distribuer les billets et le gars sait pas s'en servir. Ça m'a interpellé quelque part, comme on dit chez les cuistres.
Bah, ils sont spécialisés aussi. Prenons la figure inverse. Oui. Supposez qu'on vous mette devant les consoles d'une centrale nucléaire. Le polytechnicien, il va se balader là-dedans, comme un renard dans le poulailler. Tandis que vous serez... c'est vous qui serez le béotien cette fois-ci.
Mais si vous voulez, on prend quand même plus souvent le train que de se balader dans une centrale nucléaire. Alors donc,
Sauf que les centrales nucléaires fournissent tout de même 75%
oui,
d'électricité.
Non, mais bon, c'était une petite plaisanterie au passage, mais bon, ça m'avait bien amusé, ça, le polytechnicien.
Mais effectivement, même on raconte toujours l'histoire du polytechnicien qui n'était pas capable de se faire cuire un œuf.
Oui.
Mais je vous dis, ça ne me choque pas.
Ah non,
ça ne me choque pas.
Bon, ben d'accord, oui.
Mais, enfin bon.
Alors donc, la martingale, on a une partie des acteurs pour la martingale pour sauver la France, mais après, il faut que tout le monde travaille dans le même sens.
Eh oui, alors après, donc, ces gens-là sont des leaders. Alors actuellement, il n'existe pas de parti qui puisse les intéresser. Et je pense, moi, personnellement, il y en a certainement quelques dizaines dans le privé actuellement ou dans l'administration ou dans les entreprises publiques, qui feraient peut-être de la politique. Mais comme il n'y a pas de structure pour les accueillir, ils restent là où ils sont. Quoi. Voilà. Parce qu'en plus, il y a tout de même l'incertitude de la politique. Il faut bien voir que il y a tout de même, vous n'êtes jamais sûr d'être élu. Donc,
j'allais vous le dire, c'est soumis à élection.
Moi, je ne désespère pas. C'est pour ça que j'ai créé l'ALS, pour essayer de trouver des gens tout de même d'un certain niveau qui veulent tout de même faire de la politique. Alors après, est-ce qu'on réussira? On peut réussir, mais il faut qu'on soit assez nombreux. Mais je pense qu'il en suffit de quelques dizaines. Alors quand on compare tout de même aux centaines de milliers de gens qui sont à ce niveau-là en France, bon, en trouver quelques dizaines, bon, ça peut ne pas paraître tout de même un objectif absolument disproportionné.
Mais là, ça devient le gouvernement de l'élite à ce moment-là.
C'est-à-dire, moi je ne pense pas, vous voyez, je ne crois pas, moi... Au populisme dans un certain sens. C'est-à-dire se battre contre l'élite. Moi, je me bats contre une certaine élite, mais pas l'ensemble de l'élite. Si vous n'avez pas une partie de l'élite avec vous, comment faites-vous pour gouverner, pour tenir les ministères techniques, serait-ce que la police, hein, la justice, l'armée
Le problème, au bout du compte, c'est le vote, parce que n'importe quel crétin peut être élu.
Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est à chacun. Moi, j'ai pris cette initiative de créer cette association, si vous voulez. Est-ce que j'y réussirai? J'espère. Mais...
Oui, bien sûr.
Et puis, si moi, je ne réussis pas, peut-être qu'un autre réussira, plus malin que moi en politique, réussira. Mais si vous voulez, c'est le schéma.
Que l'idée soit lancée, c'est très bien.
Voilà, je donne le schéma, quitte à ce qu'après, d'autres rejoignent ou le fassent par d'autres voies. Mais voilà, je suis un peu dans le régiment de reconnaissance, si vous voulez.
J'entends bien.
Il faut prendre une comparaison militaire.
Mais la prise de pouvoir, ce n'est pas évident. Hein. C'est le vote pour l'instant.
Non, bien sûr. Mais bon, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je veux dire, si personne ne prend d'initiative, quelqu'un a dit, le mal, ce n'est pas tellement... le mal progresse quand les gens de bien ne font rien. J'étais longtemps à l'UMP, si vous voulez, puis j'étais au Centre national des indépendants et paysans, mais qui lui revenait toujours dans le giron de l'UMP. Donc moi, j'en ai eu marre et je me suis dit, je vais monter ma structure, là, comme je suis arrivé, j'ai pris ma retraite il y a peu de temps. Bon, j'avais déjà créé avant, mais là, j'ai davantage de temps pour l'activer. Et si je n'arrive pas, moi, à conclure, peut-être quelqu'un derrière moi arrivera
bien sûr,
à conclure.
Absolument, oui.
C'est un jeu d'équipe, de toute façon.
Puis,
il ne s'agit pas d'une seule personne, hein, vous comprenez bien.
Il peut y avoir des disciples. Mais, mais je pense que, en tout cas, dans cette radio où les gens réfléchissent, personne n'est contre... Je vais prononcer un mot, mais il faut le prendre au sens simple. Une espèce d'aristocratie de gouvernement, l'élite. Moi, j'avais étudié ça... il y a longtemps, il y a même une époque où on étudiait ça dans les loges maçonniques du Grand Orient de France. Le gouvernement par l'élite, alors c'est vous dire si c'est
oui,
quelque chose qui est
produit. Je crois qu'il y a Saint-Simonisme, je crois, au 19e siècle.
Enfin, la conclusion du Grand Orient, c'était que l'élite, c'était eux quand même, il ne faut pas se tromper. Mais
oui.
Bon,
oui. Mais j'essaie de faire ça sur des critères objectifs.
Oui, bien sûr.
Je dis la créativité, la capacité à organiser... et la capacité à gérer. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Bah bien sûr, justement, on en revient toujours. La conclusion, c'est qu'après tout, il faut qu'il y ait une sélection et qu'il y ait le gouvernement des meilleurs, et puis c'est tout. La façon dont l'éducation nationale fonctionnait jusqu'à maintenant, il va peut-être changer. Ça ne tire pas vers le haut, donc c'est difficile de sortir une élite.
Mais si vous voulez, pour répondre à votre assertion... votre objection, effectivement, vous avez parlé de l'éducation nationale, vous avez remarqué dans le programme de l'ALS, dans les 7 propositions, il y en a une sur l'éducation nationale. Donc j'en parle dans mon deuxième livre, pour un État juste et efficace, où je suis pour effectivement réinstaller l'orientation sélection. La sélection orientation, plus exactement.
Bien sûr, oui.
Parce que, effectivement, sélection, ça peut avoir un côté négatif, vous voyez, un côté connoté négatif. Alors que l'orientation, ça plaît toujours, quoi. Effectivement, si on sélectionne, on oriente aussi. Parce que si on dit à une personne qu'elle n'est plus capable de suivre un cursus, il faut tout de même lui trouver un autre cursus. Il faut l'orienter vers autre chose.
Oui, mais ça, alors, c'est une idée qui, même chez des gens qui ne sont pas complètement à gauche, l'idée de sélection, ils ont l'impression qu'on va trier leurs enfants comme des pommes de terre ou des poireaux. Tant qu'on ne va pas revenir à cette idée que tout le monde est formidable, mais que tout le monde ne peut pas être effectivement ou polytechnicien, et tout le monde ne peut peut-être pas non plus être femme de ménage.
Enfin, voilà. Par contre, pour tempérer tout ça, donc, je parlerai plus loin là, du principe de Rawls. Rawls raisonnait, c'est un philosophe économiste américain qui a écrit un livre en 1971, Théorie de la justice. Il raisonnait donc en fonction de ce qu'il appelait le voile d'ignorance.
Oui.
C'est-à-dire, vous choisissez le type de société sans savoir où vous seriez situé, vous, sur cette échelle. Si vous seriez PDG ou ouvrier à la base, ou à manœuvre, ou vous ou vos enfants. Et à ce moment-là, si vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes, où seraient vos enfants.
Ouais.
Alors, si votre enfant, il a un destin de manœuvre ou dévoreur de pizza, vous allez peut-être choisir à ce moment-là un modèle de société qui permet que votre enfant ne soit pas trop misérable, qu'il gagne suffisamment sa vie, qu'il ait envie de vivre.
Oui, absolument.
Donc, lui donner un statut tout de même qui lui permette de vivre décemment.
Voilà.
Donc, ça me conduit, si vous voulez, déjà j'en parle dans mon premier livre, à mettre, par exemple, un avis sur l'échelle des revenus, par exemple.
Oui, bien sûr.
Je ne souhaite pas, si vous voulez, je ne suis pas un ultra-libéral.
J'entends bien.
Je ne suis pas un hyper-libéral.
D'accord. Pour
un libéralisme tempéré.
Nous allons faire une petite pause pour parler du déjeuner de Radio Courtoisie. Voilà le bobino que nous envoie notre ami Philippe.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émission de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquent. requêtes pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Bien, ben alors après cette annonce alléchante, et j'espère vous retrouver nombreux, chers auditeurs, parce que c'est toujours un moment joyeux de se retrouver. En plus, on déjeune pas trop mal, au Calanque, on déjeune même plutôt bien. Et s'il y a un rayon de soleil, c'est toujours formidable. Donc, eh bien, en attendant, nous allons repartir sur des choses très sérieuses avec Monsieur Godichon. Et alors, on est toujours dans la martingale pour sauver la France. De toute façon, la sauver, ça c'est d'autres choses, mais on peut toujours le souhaiter. Mais est-ce qu'il faut vraiment la sauver? D'ailleurs, on pourrait se poser la question par moment. Ah ben, la France, il faut sauver la France que nous aimons.
Oui, alors faut vous avez raison de
d'enterrer celle que nous n'aimons pas.
Mais c'est ça, vous avez raison de définir parce que de vouloir le définir parce que sûrement c'est un de mes principes. Je pense que c'est même un principe de justice chrétienne de toujours définir ce dont on parle. Pour arriver à se mettre d'accord sur notre objectif. Alors, quelle France, par exemple, moi, je voudrais sauver? Bon, c'est vrai qu'il y a la France de nos terroirs, d'abord. Enfin, c'était porté par mon ancien parti, le CNI. Mais il y a pas que ça. Hein. Il y a la France des bons produits, hein, du foie gras, du pommard, etc. Il y a la France de la mode aussi, bon, la haute couture. Mais il y a aussi la France industrielle. Il y a la France qui a été capable de construire les centrales nucléaires, qui participe à Airbus, qui est constructrice automobile, qui est dans le textile, enfin qui a perdu tout même une grande partie de son textile, mais qui a tout même excellé là-dedans aussi, et dans tous les domaines, et même aussi dans le domaine des services, puisque après tout, par exemple, il y a aussi notre système de santé qui peut encore s'améliorer, où la France, ou même est un des pays les mieux placés, et qu'elle doit encore progresser et l'améliorer, etc.
Donc, oui, mais même à la limite, avant de l'améliorer, maintenant, il faudrait au moins le fixer là où il en est, parce que ça se dégrade de tous les côtés. Pour vivre la moitié de l'année en province, je vois bien que le service de santé en province, c'est plus ce que c'était. Que la poste, c'est plus ce que c'était. Que les trains ne s'arrêtent plus dans les gares où ils s'arrêtaient. Enfin,
bon. Alors là, justement, le test Lévinot a une réponse là-dessus.
Ah.
Ah oui, avec moi, il y a des surprises aussi, hein, monsieur le marquis. Oui, en fait, voyez, par exemple, vous prenez les Chiraciens, chiraco-gaullistes. Eux, ils ont le cœur à droite, c'est-à-dire ce sont des créatifs, des imaginatifs. Donc, dans leur programme, vous avez toujours Monts et Merveilles, on va faire ceci, la nouvelle autoroute, le nouveau truc, la nouvelle usine, machin. Mais ils ont la tête au centre,
oui,
c'est-à-dire
ce
ne sont pas des organisateurs. Mais avoir la tête à droite, c'est pas seulement organiser, etc., c'est aussi assurer le service après-vente.
Oui.
C'est-à-dire... Dans le cas, par exemple, de la SNCF, il ne s'agit pas de toujours bombarder les gens d'innovations de toutes sortes. Il faut aussi faire en sorte que ce qui existe fonctionne. Et ça, il faut que les ordres arrivent à tous les échelons pour que les trains arrivent à l'heure, s'assurer que les conducteurs sont bien à leur poste dans le train, à l'heure prévue, etc. Ça, c'est avoir la tête à droite. Et dans les présidents de la République qu'il y a eu depuis Pompidou... Aucun n'avait la tête à droite. Tous avaient la tête au centre, ou à gauche, Mitterrand. Donc, aucun n'a fait d'effort pour mettre de l'ordre. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand le président, parce qu'on dit le poisson pourri par la tête, quand le président n'a pas une tête à mettre de l'ordre, bah, les échelons en dessous non plus. Il va prendre des gens qui lui ressemblent aux échelons en dessous.
Bien sûr.
Donc, cette incompétence se répercute d'étage en étage. Ça se répercute au niveau, on choisit un président de la SNCF qui est un peu mollasson, lui-même va avoir tendance à promouvoir des gens un peu mollassons, et qu'à la fin, les ordres n'arrivent pas, des ordres... alors, le problème, quand je dis des ordres, je parle d'ordres appropriés. Je ne parle pas de faire marcher les gens à la schlag, vous voyez, au fouet. C'est d'avoir l'ordre d'arriver à l'heure et que s'ils n'arrivent pas à l'heure, pour prendre leur service, il y aura des sanctions. Que ces sanctions soient appliquées.
Bien sûr. Voilà. Eh bien, vous voyez, là, il y a deux messages qui corroborent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, tiens, il n'y a pas encore de message, c'est bon signe, on ne va pas se faire enguirlander. Eh bien là, vous faites pas enguirlander, mais vous faites légèrement gronder. Donc, il y a deux messages. Il y a un monsieur qui vous dit, il s'adresse à vous, « Monsieur, votre droite est comme la circulation routière au Royaume-Uni, elle roule à gauche. » Il ajoute « En politique, la hiérarchie plus est haute, plus elle a une certaine tendance à se casser la figure. » Et il y a une dame qui vous répond aussi. Alors, c'est donc une dame qui dit « Vous avez dit que les hommes politiques ne travaillent pas, c'est faux. J'en ai plusieurs autour de moi, ils travaillent énormément, dont le week-end, et n'ont plus de vie de famille, ne généralisez pas. » Bien. Bon, moi, avant de vous laisser répondre rapidement, je dirais que les hommes politiques... Je ne vais pas les plaindre, même s'ils travaillent beaucoup. Ils ont choisi d'être, par exemple, députés. Ils en tirent quand même quelques avantages, il faut bien le dire, ne serait-ce qu'un peu de prestige. Mais c'est vrai qu'il y en a qui travaillent beaucoup, mais ils ne travaillent peut-être pas non plus d'une façon cohérente. Je n'en sais rien. Enfin, ce n'était pas une attaque très grave.
Bah, je peux émettre des observations sur les deux questions.
Oui, absolument.
Questions.
Ouais, allez-y. Oui.
La première...
Je vous les donne, ça vous fera un souvenir de l'émission.
Merci. Oui, ma droite est à gauche. De toute façon, premièrement, mais enfin, j'en parle plus loin. Donc, c'est vrai que les objectifs économiques ne peuvent pas être très à droite. Ils sont plutôt centristes. Mais c'est les gens qui appliquent, qui doivent être à droite. Et vous dites, elle dit, par exemple, en politique, la hiérarchie, plus elle est haute, plus elle a un certain nombre à se casser la figure. Je suis parfaitement d'accord. Mais justement, c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce, c'est pas du tout... je prends pas ça comme une critique, au contraire, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le sommet politique, enfin ce qu'on appelle le sommet, enfin le haut de la hiérarchie politique, n'est pas à la hauteur. Donc, elle ne se casse pas la figure de très haut, puisqu'elle n'est pas très haut.
Donc,
elle se casse la figure de quelques mètres, c'est tout. Hein, elle se casse pas la figure de 100 mètres ou de 30 mètres, hein, de quelques mètres. Ensuite, les hommes politiques ne travaillent pas. Attention, ça dépend de ce qu'on appelle du travail. Est-ce que vous appelez travail aller couper des rubans le samedi ou le dimanche je ne suis pas sûr que c'est ça qui permet de relever la France. Je ne parle pas... parce que l'inverse du travail originel, donc c'est le travail protocolaire, ce que j'appelle le travail protocolaire.
Oui, c'est pas pareil.
Donc s'il passe 20 heures de sa semaine à aller faire des gueuletons républicains, à couper des rubans, etc., serrer des mains... Pour moi, ce n'est pas un travail, ce que j'appelle le travail originel, c'est-à-dire réfléchir aux problèmes et imaginer les solutions qui vont sortir la France du marasme, mais non seulement les imaginer, mais aussi les appliquer. C'est-à-dire commander les hauts fonctionnaires, les réunir, leur tendre la carotte, mais aussi le bâton, demander des retours, demander des comptes rendus, des préfets, des remontées toutes les semaines ou tous les mois, des remontées qu'on lit, qu'on ne laisse pas seulement entre les mains d'un collaborateur tortampion dont on ne lit même pas le résumé, etc. Donc, il y a des politiques qui donnent l'impression de travailler beaucoup, mais moi, je n'en ai connu aucun qui travaillait beaucoup. Alors, j'aimerais que la personne s'y dénonce si elle en connaît.
Oh, bah oui, non, mais alors, après, on va dénoncer ceux qui ne travaillent pas non plus. Moi, j'ajouterais le monsieur là qui nous dit qu'en Angleterre, on roule à gauche, avec tout ce que ça comporte. Moi, je lui dis en souriant, mais je le pense vraiment, mais c'est pas grave qu'on roule à gauche en Angleterre. C'est une monarchie. Ça me suffit. Voilà. Dans la défense de la France, là, on a des questions particulièrement techniques et intéressantes. Mais moi aussi, je voudrais que nous sauvions la France des croix et des crèches, par exemple, parce que c'est quand même très important, ça aussi.
Ben, c'est-à-dire que moi, déjà, vous voyez, mon programme, donc c'est un programme de bien commun. Donc, c'est un programme d'intérêt général sous conditions de justice redistributive. Et pour moi, la justice redistributive, c'est la notion chrétienne de justice, si vous voulez, la vertu cardinale.
Oui.
Donc, à partir de là, à partir du moment où je suis dans la recherche du bien commun, évidemment, je ne vais pas m'attaquer aux symboles religieux qui ont façonné la France et auxquels, tout de même, une grande majorité de Français croient encore, même s'ils ne sont
même
pas pratiquants.
Même s'ils ne croient pas, ils considèrent que c'est leur culture.
Oui, voilà, même s'ils ne sont pas pratiquants, quelque part, ils vont tout de même aux enterrements à l'église, etc. Ils baptisent leurs enfants, ils vont au mariage à l'église, etc. Même s'ils n'y mettent pas les pieds par ailleurs, il y a encore un fond de croyance, de culture française. Alors bon, des gens disserteront mieux que moi de cela sur cette radio. Mais pour moi, donc, évidemment, ces symboles... c'est-à-dire, je suis pour la modernité, évidemment. Ayant le cœur à droite, je suis pour imaginer des nouvelles solutions parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui se posent. Il faut bien trouver des solutions. Mais ça n'implique pas qu'on enlève les croix au bord de nos chemins. On peut concilier les deux.
Voilà.
C'est un libéralisme enraciné, si vous voulez. Si je suis libéral, national et social, c'est un libéralisme, mais qui est enraciné.
Maintenant, moi, je me pose une question. J'espère qu'on ne va pas avoir de soucis, mais je me la pose à 74 ans. Je suis, pardonnez-moi, choqué, non, heurté, non, mais toujours légèrement mal à l'aise quand je vois Avenue Montaigne, parce que c'est pas souvent à Barbès que ça se passe, des dames voilées de la tête aux pieds. Et quand je dis que la kippa ne me gêne pas, bah, tout simplement parce que dans ma plus tendre enfance, j'habitais sur les grands boulevards, qui était un quartier proche du Sentier, où il y avait beaucoup de familles juives, on était juste après la guerre en plus, qui n'étaient pas tout le temps en train de se retourner sur leur tragique passé. Et mes petits copains portaient la kippa, ça m'a jamais dérangé, surtout ceux qui avaient les cheveux très noirs, on la voyait même pas. Mais aujourd'hui encore, un type avec la kippa dans la rue, ça me gêne pas. Une femme voilée, ça me met mal à l'aise. Voilà, j'espère que j'ai pas commis une faute épouvantable en disant ça. Peut-être parce que si, dès ma plus tendre enfance, j'avais vu la même chose, aujourd'hui, ça ne me ferait ni chaud ni froid. Mais là, ça me gêne. C'est le jour où vous allez au prix de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle Qatar, prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, on parlait de chevaux tout à l'heure, et que vous voyez des dames voilées, parce que c'est l'émanation du Qatar, j'en ai une gêne. Alors, il paraît qu'il ne faut pas le dire. Mais donc, c'est de la naïveté ou du déni de réalité. Mais je précise, ce n'est pas une question même de religion, c'est une question d'environnement. Dans mon enfance, moi, j'ai toujours vu des petits garçons et leur papa avec leur kippa, parce que c'est le quartier des grands boulevards, il y a ceux qui connaissent, ils voient ce que je veux dire. Bon, mais je n'ai jamais vu de femme voilée. Il a fallu que j'attende maintenant, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, même pas. Et là, ça me gêne. C'est pas que ça me choque, ça me gêne. Je ne sais pas qu'il y a derrière et ça me gêne. Voilà. Bon, bah, la France, c'est pas ça. La France, c'est une France à visage découvert. Voilà.
Bien, c'est-à-dire que jusqu'ici, si vous voulez, j'ai surtout parlé de l'aspect économique et
oui,
social.
Voilà.
Hein.
Oui, c'est pour ça que je voulais un peu...
C'était un peu convenu entre nous.
Et puis c'est
voilà.
Ouais,
mais l'aspect migratoire, je veux bien l'aborder aussi. Hein. C'est un des thèmes de mon mouvement.
Hein.
Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, évidemment, tout dépend des termes qu'on emploie pour le dire.
Je ne pense pas avoir été grossier.
Je vais essayer qu'en termes galants, ces choses-là soient dites.
Voilà, absolument.
Hein, voilà, s'agissant en particulier de femmes voilées. Donc,
c'est la galanterie, là. C'est un peu difficile.
Oui, voilà. Je comprends, monsieur le marquis, que votre sens de la galanterie soit...
Ça accommode mal avec
la burqa. Oui, pose chez vous des frustrations. Ça, je m'en doute bien. Donc, voilà. Si vous voulez, quand je parle de compétences des hommes politiques... l'immigration est comprise dedans. C'est-à-dire je pense profondément, mais à la fois entre qu'économiste et que politique, que l'immigration n'est pas forcément une chance pour un pays.
Moi, je suis d'accord avec vous. Le jour où on nous a dit ça, c'est une calembredaine, alors.
Mais voilà. Je pense que même si vous voulez, moi, personnellement, dans beaucoup, maintenant de plus en plus de sociétés de services, on a affaire à des gens issus de l'immigration, comme on dit, et ça pose souvent des problèmes. Déjà, ils ne parlent pas forcément bien français, ils ne comprennent pas forcément toujours ce que vous dites. Et en plus, ils n'ont pas forcément envie de vous donner vraiment satisfaction. Alors que je constate que mes compatriotes de souche, même s'ils sont à la CGT, ils auront tout de même envers moi, même si que je suis de droite, un sens du service plus important. Mais ça, si vous voulez, je n'en veux pas aux immigrés, si vous voulez, je les respecte, je les comprends, même je travaillerai en Afrique, je ferai peut-être la même chose vis-à-vis des Africains. Je crois qu'il y a consubstantiellement des nations, un esprit d'un pays, un esprit national qui nous est donné génétiquement, je crois, mais à la naissance, quoi. On ressent des choses profondément, et je ne vois pas pourquoi un docteur Fauss ou un docteur Folamour nous dicterait ce que nous devons penser, etc. S'exercerait dans une police de la pensée qui pour moi est une atteinte absolument insupportable à la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus profond.
Bien sûr.
Et si vous voulez, je parlais tout à l'heure de Georges Pompidou, vous voyez, des capacités de Georges Pompidou pour être président de la République. Alors, au niveau global, donc, il avait une note intéressante. Je lui mets 20 dans le test, ce qui est pas mal, quoi. Mais par contre, il avait la tête au centre. C'est-à-dire que la tête au centre, c'est la tout même conduit à faire voter une loi, tout de même, vous savez, sur la répression des propos racistes, etc. C'est une loi qui, au départ, bon, n'était peut-être pas excessive, mais qui a ouvert la voie ensuite à des contentieux de plus en plus discriminants et chargés vis-à-vis des Français de souche, et qui les a conduits petit à petit, au fil du temps, par suite de constructions contentieuses, enfin juridiques successives, à ce que la justice ait la main de plus en plus lourde et que les Français peuvent de moins en moins s'exprimer.
Oui, mais c'est, vous avez tout à fait raison. Il y a souvent pas mal de choses qui partent d'une très bonne intention et qui, au bout du compte, ne font qu'exacerber les problèmes. Et moi, je sais que, d'abord, il faudrait vraiment que j'y sois forcé pour aller vivre dans un autre pays que le mien. Et je pense que même si j'étais dans un pays qui m'accueille profondément, parlant mal la langue, par exemple, j'aurais profondément une gêne. Je ne serais jamais vraiment à l'aise vis-à-vis des autres. Et j'ai vécu très longtemps en Espagne, dans des conditions de rêve, j'étais pas tout le temps à l'aise non plus parce que j'étais pas chez moi. Voilà. Et ça, je peux comprendre que ça crée des complications. Mais alors après, il y a aussi des gens qui s'en servent pour faire monter des mayonnaises qui n'a pas lieu de monter. Mais comme je vous le disais, bon, la législation, c'est très bien, mais ça ne fait qu'exacerber parfois les colères, les agacements, et c'est bien dommage. Et maintenant, c'est vrai que il y a des problèmes qui se posent. Il y a des messieurs qui viennent travailler, ils travaillent au Hall, ils travaillent à Rungis, tout ce que vous voulez. C'est pas très problématique. Et puis quand vous êtes même la grande époque des infirmières espagnoles, l'Espagne c'est pas le bout du monde, ne comprenant pas très bien tous les mots en français, quand elles sont infirmières dans un hôpital, s'il faut brancher des tuyaux d'une couleur ou d'une autre, et que bon, c'est un peu plus compliqué que si on fait les vendanges, je veux dire, voilà. Et alors dire ça, c'est quand même pas être anti-immigré, c'est simplement retrouver une espèce de raison.
Oui. Si vous voulez, effectivement, le test Levino ne traduit peut-être pas complètement cette notion d'enracinement. Mais malgré tout, pour moi, avoir la tête à droite, c'est tout de même donc diriger, commander. Et c'est aussi au niveau des flux de population, des transferts de population, dire, nous, on ne veut pas plus de 30% d'immigrés dans le pays.
Ben oui, voilà,
parce qu'on
oui.
sait que des études sociopsychologiques ont montré... même si on prend, bon, vous savez, les fameuses théories éthologiques de Cora de Lorenz, au bout d'un certain moment, dans un ensemble donné, quand on augmente les gens d'ethnies différentes, à partir d'un certain pourcentage d'origine ethnique différente, les conflits commencent à arriver. Ça peut être des conflits religieux, certes, mais aussi ethniques.
Oui, j'entends
parce
bien.
Que les conflits actuels, contrairement à ce qu'on nous dit, ce ne sont pas pour moi uniquement des conflits religieux.
Bien sûr.
Je pense que l'ethnique joue son rôle.
Bien sûr.
Giscard a fait voter, donc tête au centre lui aussi, donc le regroupement familial. Donc,
partait d'une idée généreuse, mais qui est une catastrophe.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Voilà.
Que ce soit en économie ou en politique, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions.
Bien sûr, mais en définitive, si je comprends bien, le fait de réfléchir à l'immigration, à la fois pour les immigrés eux-mêmes, qu'ils soient le moins mal possible, et pour que le pays qui reçoit soit le moins mal possible, ça n'a rien d'anti-chrétien de s'occuper de ça et d'y réfléchir.
Ben non, moi, au contraire, je trouve que c'est très chrétien.
Voilà.
Parce que ça permet... le chrétien doit être un artisan de paix,
voilà.
Et je pense, mais il faut voir à long terme. Et justement, dans le test Levino, si vous voulez, la seule bonne note qu'avait De Gaulle, c'était le cœur à droite, si vous voulez.
Mm-hmm.
Parce que, bon, on peut critiquer De Gaulle, bon, l'Algérie, etc., des tas de choses, la libération.
Ne vous inquiétez pas, ça s'est beaucoup fait, ce
micro. Oui, ici, voilà. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de vision, si vous voulez.
Ah, ça, c'est tout à fait vrai.
Oui, voilà. Et donc, le gouvernant doit avoir une vision à long terme. Il doit Giscard a dû se demander en 76, quid de mes mesures dans 30 ans ou dans 40 ans? Si vous voulez, à la direction de la prévision à laquelle j'ai appartenu à Bercy, on fait tout de même des calculs, parfois moins longs, mais 5-10 ans déjà.
Bah oui,
pour
oui,
voir un
normal.
Peu ce que ça donne dans le moyen terme. L'économie, c'est plus sujet à retournement.
Bah même
et
dans,
en politique...
Bah oui, bien sûr. Mais même dans un ménage, on regarde un peu à long terme.
Bah oui,
on
voilà,
un
quand, oui, et construire une maison, etc.
Voilà.
Donc, c'est pour ça que, vraiment, en politique, c'est pour ça qu'il faut... Là, on revient à la martingale, toujours. Le cœur à droite, c'est d'avoir la vision, c'est-à-dire réfléchir aux conséquences de ses propres décisions à 20, 30 ou 40 ans, parfois, parce que là, on est dans le long terme. C'est comme pour le nucléaire ou les choses comme ça, hein, l'énergie, le pack énergétique. Mais c'est aussi avoir la tête à droite, c'est-à-dire aussi mettre en application. Parce que De Gaulle avait peut-être des bonnes idées, mais il ne les a pas toujours mises en application.
Et voilà, oui.
Par exemple, peut-être fallait-il qu'il agirait, j'en sais rien, mais et ça s'est fait avec une casse terrible. Il n'y a pas eu derrière. Peut-être il fallait un gouvernement transitoire, je ne sais pas quoi, moi, ou une partition de l'Algérie. Mais si vous voulez, il est parti comme ça, il a dit on va faire ça, puis après, aucun suivi, quoi, aucun service après-vente.
Oui, bien sûr, oui, c'est ça le problème.
Donc c'est ça, donc, un politique compétent doit à la fois réfléchir aux mesures, mais aussi les appliquer fermement.
Voilà,
avec fermeté.
Et avec une vision d'avenir.
Oui, voilà, et avec un suivi dans le temps. Dans le temps.
Il nous reste 8 minutes. Je vous dis ça parce que vous avez des annonces à nous faire, alors n'oubliez pas. Depuis que je dis qu'il nous reste 8 minutes, il doit en rester 7. Pendant que je regarde les messages, faites vos annonces. Comme ça, on aura le temps, on va prendre le temps de le faire.
Oui, alors, j'ai prévu une réunion de mon mouvement, l'Association libérale et sociale, samedi prochain, 18 novembre, de 10h30 à 13h, 10h45 plus exactement, à 13h au bistrot Valois, 1 place de Valois, métro Palais-Royal. Le sujet, c'est pour tout comprendre sur les mensonges du GIEC, des politiques et des journalistes sur le réchauffement climatique et le CO2. L'intervenant sera Camille Vert, polytechnicien, X-Télécom, ancien officier de marine de réserve, déjà passé sur Radio Courtoisie. Donc le samedi 18 novembre, donc samedi prochain, de 10h30 à 13h au bistrot Valois, 1 place Valois, métro Palais-Royal. Sinon, il est prévu une dédicace de mes livres, le samedi 2 décembre de 16h à 18h à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, métro École Militaire, dans le 7e arrondissement. Enfin, mes coordonnées, mon téléphone, c'est 06 60 91 49 43, 06 60 91 49 43. Et mon mail, c'est Pierre Godichaud, donc dans un seul tenant, Pierre, le prénom, Godichaeu, @wanadoo.fr, WANADOO.fr.
Bien, il nous reste 5 minutes. Je vais répondre à ces deux messages parce que, très honnêtement, je suis très content d'avoir des messages. Ça ne correspond pas trop au caractère de l'émission. Alors, il y a un message qui est signé Monsieur Anonyme, parce qu'il ne veut pas qu'on dise son nom, je ne le dirai pas. Et je vous fais part de sa remarque, mais je vais dire ce que j'en pense. Vos invités pourraient-ils parler français ? Bon, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas. Dire qu'en pensez-vous plutôt que vous en pensez quoi ? Je suis d'accord, monsieur, mais il y a le langage écrit, le langage parlé en direct à la radio, et on essaye, à Radio Courtoisie, ça fait partie des charges, de parler un français le plus pur possible. Dans le feu d'une conversation, c'est une forme qui n'est pas très grammaticalement supportable, mais je vous rassure, à l'écrit, nous sommes absolument sans faute. En tout cas, ça prouve que vous écoutez d'une façon tout à fait attentive, et je vous remercie de nous donner des leçons desquelles nous tiendrons compte. Alors, il y a un autre message qui est une dame, oui, les dames en matière de chapeau, elles sont calées, qui me fait un peu rire parce que j'ai dit que la kippa ne me gênait pas. Alors, elle explique. Concernant la kippa, je vous rappelle que les ecclésiastiques portent tous la kippa, ainsi que le plus important de tous, Monseigneur le Pape. D'abord, madame, alors je vais vous faire une réflexion, on ne dit pas Monseigneur le Pape, on dit sa sainteté. Bon. Cela ne s'appelle pas une kippa, mais c'en est une. Voilà, vous voulez nous dire que tout le clergé catholique porte la kippa. Bon, vous méritez peut-être une calotte à dire ça. Voilà, il nous reste encore 3-4 minutes.
Bon, j'ai encore quelques...
Bah tiens, alors, en quelques mots, le national-socialisme est-il de gauche ?
Oui, alors j'ai déjà un peu répondu à la question
si
tout à l'heure.
Si on vous couvre brutalement, on pensera que c'est de la censure.
Oui.
Il reste 2 minutes. Soyez bref sur le national-socialisme.
J'ai répondu un peu tout à l'heure.
Oui, en effet.
Mais parce que, bon, qu'on le veuille ou non, le Front National est un peu sur cette ligne-là. Hein, Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement, ce sont des gens qui ont le cœur à droite, donc qui sont imaginatifs et créatifs, la tête à droite, qui sont aptes à diriger, à commander, à organiser, on l'a vu historiquement.
Absolument.
Et le portefeuille au centre, ambition modéstère, modeste. Hein, et les gens, le national-socialiste moyen ne cherchait pas à faire fortune, en principe. Voilà, il y en a peut-être quelques-uns, mais qui étaient des rapportés, qui l'ont fait. Mais globalement, je ne pense pas qu'ils le cherchaient. Mais le problème, c'est que du coup... ça les a conduits à ce que j'appelle la faute politique.
D'accord.
Donc, dans l'étalonnage du test Levinot, il y a une note à un endroit, on arrive au 100 fautes politiques, à 22 dans le test, et je mets Hitler à 16. Donc, c'est-à-dire efficace, mais qui n'est pas dans le succès total.
Oui, c'est moins robuste.
Oui, c'est ce qui s'est produit, quoi.
Oui,
c'est-à-dire, j'ai essayé d'imaginer, là, avant de venir, ce qu'aurait été, par exemple, un Hitler qui aurait eu la note 22 au test Levinot.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au lieu de 16. C'est-à-dire, il aurait peut-être réoccupé la Rhénanie, il n'y avait pas eu de conflit, annexé l'Autriche, il n'y a pas eu de conflit, les Sudètes, il n'y a pas eu de conflit, mais il se serait arrêté là. À partir du moment, pour moi, où il a envahi le reste de la Tchécoslovaquie, en mars 1939, il avait franchi la ligne rouge.
Voilà, tout simplement.
C'était terminé. Donc là, il a fait sa première faute politique.
Oui,
et après, ça s'est enchaîné, la Pologne, etc.
Et
au lieu de faire ça, il aurait développé la coccinelle, vous savez, les premiers échantillons de la Volkswagen. Au lieu de construire des chars, il aurait construit des coccinelles, des Volkswagen, pour utiliser les autoroutes qu'il avait construites. Parce qu'il les a construites apparemment plutôt pour ses chars et ses divisions blindées que pour...
Oui,
vous voyez, donc il a fait une sorte de keynésianisme militaire. Donc voilà, il aurait travaillé pour le bien-être de son peuple.
Plutôt que
de le conduire à des guerres absolument ingagnables d'ailleurs, voilà. Parce qu'il s'est brouillé avec des tas de gens et il a fini par avoir les trois quarts de la planète contre lui.
Il a fait ce qu'il fallait pour.
Donc, voilà.
Il reste une minute, alors j'en profite pour vous remercier d'être venu. Je pense que ça intéressait beaucoup nos auditeurs. Et j'annonce à nos chers auditeurs que ma prochaine émission aura lieu le 13 décembre, même lieu, même heure, bien sûr, et toujours sur Radio Courtoisie 95.6, qu'on n'a pas beaucoup cité, mais enfin, il y a eu le Bobino quand même. Et je vous parlerai de Montmartre. Voilà.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguez des Olmeta, diffusée en direct mercredi 15 novembre 2017 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.